France Info. France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés également sur le canal 27 de la TNT. Si vous pensez qu'en France, nous sommes dans une situation critique, car il y a des zadistes, des étudiants, des cheminots, des retraités, des fonctionnaires en colère contre le gouvernement, ce n'est rien comparé à la Norvège. En effet, ce pays doit faire face à une recrudescence d'actes sexuels sur les ronds-points, et oui, en cause des challenges de fin d'études, et encore, on ne leur a pas parlé de la limitation de la vitesse à 80 km/h, ils seraient capables de bien pire. Et eux, ils sont plutôt sur l'autoroute, on va dire, de l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent le journaliste européen Alexis Poulain, bonsoir.
Bonsoir.
Également Étienne Girard, bonsoir. Marianne. Éric Scholl, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de Courrier International. Et l'essayiste Antoine Bueno, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Et ce soir, on parlera d'Emmanuel Macron, qui va voir son correspondant américain la semaine prochaine. On parlera également asile et immigration, le coup de chaud du gouvernement. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. En 496, et oui, Clovis remporte la bataille de Tolbiac. Alors après cette bataille, il se convertit au catholicisme. En 2018, Gérard Collomb remporte la bataille de la fac de Tolbiac et convertit les étudiants à l'ordre. Alors doit-on y voir un coup de pouce du divin pour le ministre des Cultes ? L'histoire nous le dira. Ce matin, les forces de l'ordre sont donc intervenues pour évacuer la centaine d'occupants présents sur place depuis le 26 mars. Cette faculté était un symbole de la mobilisation de certains étudiants contre la réforme de l'université et entre de la décadence pour son président. Le gouvernement a accéléré après avoir usé de la stratégie de l'usure faisant durer pour mieux contrer, une tactique utilisée également à l'égard des cheminots. Restent donc ces images de CRS dans les facultés qui interrogent et notamment les enseignants présents sur place comme Julien Fréteil, il est professeur de sciences politiques, on l'écoute.
Faire intervenir les policiers, n'avoir comme politique publique et réponse à une mobilisation que l'intervention de la police, c'est pas digne, c'est pas correct, c'est pas à la hauteur des enjeux que représente l'université.
Voilà, Julien Fréteil, professeur de sciences politiques. Ce soir, il y a donc une manifestation présente devant la faculté de Tolbiac dans le 13e arrondissement. Antoine Bueno, pour le gouvernement, c'était important d'évacuer, de montrer aussi qu'il fallait rétablir
l'ordre. Je suis pas certain que ce soit très habile. Alors déjà, pris sur le vif, je peux vous dire que, par le plus grand des hasards, j'habite à Tolbiac, quasiment en face de la fac. Nice. Et je peux vous dire que le dispositif était pour le moins impressionnant. Et donc, quand on sait qu'il y a cette débauche de fourgons, de CRS qui arrivent pour évacuer 100 malheureux occupants, je suis pas sûr que l'impact en termes d'image soit extrêmement heureux.
Oui, mais c'était important pour le gouvernement, par contre, de le faire, de dire quand Gérard Collomb a dit « moi, je veux rétablir l'ordre dans les universités ».
C'est absolument pas certain, parce que ça peut vraiment être à double tranchant.
Oui, Alexis Poulain, pour vous, aujourd'hui, est-ce que c'est... Quand on voit ça, on voit des CRS aujourd'hui, là, c'était à Tolbiac aujourd'hui, on les a vus également à la Sorbonne la semaine dernière. Est-ce que c'est la meilleure solution évacuée ? Est-ce que ça résout le problème, finalement ?
Ça résout pas le problème, mais enfin, la question de cette réforme de l'université, c'est celle-là qui est posée. Occuper les universités, évidemment, ça dure qu'un temps, et on va pas y vivre, mais la question de dire pourquoi y aller comme ça, maintenant, aussi vite, ce côté précipitation, en disant il faut partout et à 5 heures du matin dans plusieurs facs, ça rappelle un peu la précipitation de la ZAD également, où ils ont détruit là des fermes qui demandaient l'agrément pour continuer leur activité agricole. Donc il y a quelque chose qui pose question dans cette volonté d'aller si vite, de montrer combien l'État peut être fort et peut rentrer n'importe où, et en disant voilà, en allant réveiller des étudiants qui occupent la fac à 5 heures du mat, avec peut-être un blessé, on ne sait toujours pas, en disant que c'est une opération propre, sachant qu'il y a eu des coups de matraque quand même, ouais, ça pose question.
Oui. Éric Scholl, tout de même, il y avait aussi une volonté des présidents de la fac, voilà, depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines, le président de Tolbiac disait, il faut, moi, j'ai besoin que vous évacuiez cet endroit.
Oui, je vais peut-être avoir l'air du...
j'ai le côté gendarme. Prie, Eric, mais non.
Mais effectivement, il y a quand même, voilà, il y a des étudiants qui avaient certainement envie de poursuivre leurs études jusqu'à la fin de l'année. Il y avait des occupations, on a vu ce mouvement, depuis une quinzaine de jours, commencer à faire tache d'huile. La réalité derrière, c'est combien de personnes ça représente. Est-ce que chaque fois on est en minorité? Il y a quand même eu quelque chose d'intéressant qui s'est passé d'ailleurs à Sciences Po, où il y a eu un vote qui a été fait, mais de façon plus large, pas juste sur les 150 ou 200 personnes qui occupaient un amphithéâtre qui a été d'ailleurs renommé, si j'ai bien compris.
Oui.
Et on s'aperçoit au fond que, bon, voilà, c'est des minorités. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas derrière un vrai sujet qui est celui de l'inquiétude des étudiants. Ça, c'est parfaitement... Il y a une vraie inquiétude. Est-ce que la réponse est la bonne? Est-ce que Parcoursup, est-ce que c'est la bonne réponse. On peut en discuter. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que de toute façon, quand on regarde ce que deviennent les étudiants aujourd'hui, il suffit de prendre les chiffres du ministère de l'Éducation et on voit que quelqu'un qui s'inscrit aujourd'hui à l'université, il y a que 30% des gens en première année qui vont aller jusqu'à le premier cycle, c'est-à-dire jusqu'à la licence. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui.
Bien sûr.
On doit nécessairement trouver des réponses. Je ne crois pas que ce soit dans l'occupation des facs. Tout ça, c'est une sorte de grande foire.
Antoine Bonneau.
Inversement, quand on lâche la marée chaussée, paradoxalement, ça donne une impression d'impuissance. Ça donne l'impression qu'on n'arrive pas à faire passer les choses d'un point de vue pédagogique et qu'on n'a plus d'autre recours que la violence.
C'est plutôt l'inverse. L'impuissance, elle vient plutôt du moment où on laisse occuper
les deux sont vrais, du point de vue de l'image.
Les deux sont vrais, voilà. Et Étienne Gérard, c'est vrai qu'on sent aussi, voilà, une manière aussi pour le gouvernement de reprendre son autorité. On le voit sur les facs, on l'a vu en effet sur Notre-Dame-des-Landes. En gros, on a discuté un moment et puis après, il faut passer aux actes. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, l'avait dit, de toute façon.
Oui, cette prise de Stolbiac, ça se veut un coup de force du gouvernement, une mesure d'autorité. C'est vrai que c'est pas anodin de voir des CRS avec des tronçonneuses et des FAMAS dans une université. Il y a quelque chose de malaisant.
Ça fait écho, je vous rappelle, à des images qu'on a vues il y a quelques semaines, qui n'étaient pas du tout commanditées par les pouvoirs publics. On ne sait pas exactement ce qu'il y a eu, mais des violences au sein d'une fac pour justement.
Oui, bien sûr, tout à fait.
Alors, c'est vrai, mais en même temps, Alexis Poulain, c'est vrai ce que disait aussi Eric Scholz, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui ne comprennent pas pourquoi on bloque leur fac.
Il y a des étudiants qui ne comprennent pas, qui veulent effectivement aller étudier. Deux, les présidents d'université posent des questions sur Parcoursup. Enfin, Haddad qui demande le président de Tolbiac que la fac soit libérée, lui peut émettre des énorme critique sur Parcoursup.
Bien sûr.
Le vrai débat, il n'est pas d'occuper une fac ou pas. Ça, on peut effectivement se poser la question de pourquoi, combien de temps. Alors, ça peut faire plaisir, c'est il fait beau, c'est mai 68, mai 2018, etc. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est la seule façon de faire entendre que ça ne va pas, c'est qu'il y a un grave problème démocratique dans ce pays. C'est à un moment, il faut se poser des questions.
Allez, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
Justement, c'est la fin du rassemblement devant l'université Tolbiac à Paris. Près de 400 personnes manifestées dans le calme ce soir contre l'évacuation du site ce matin et la réforme du gouvernement. Les cours ne reprendront probablement pas avant septembre à Paris Tolbiac. C'est le directeur de la fac qui le déclare après les dégâts causés par 3 semaines d'occupation. Après 9 jours de grève, Air France va consulter le personnel pour sa proposition sur les salaires. Des augmentations refusées en l'état par l'intersyndicale. Et Jean-Marc Janeillac le confirme. Si le résultat du vote est négatif, il quittera la présidence de la compagnie aérienne. Bruno Le Maire exhorte ce soir les États-Unis à lever de manière définitive leurs tarifs sur les importations d'acier et d'aluminium européens. Le ministre de l'Économie et des Finances le précise. La France n'acceptera pas une exemption provisoire. Le patron de Bercy refuse d'autre part d'entrer dans un combat contre la Chine, accusée de pratiques commerciales déloyales. Avec des amendements par centaines, la poursuite de l'examen de la loi Asile et Immigration. L'Assemblée nationale a voté ce matin la réduction à 15 jours du délai d'appel après le rejet d'un demandeur d'asile. 8 députés de La République En Marche ont voté contre. Et puis la suite des quarts de finale du tournoi de Monte Carlo. Richard Gasquet est opposé actuellement à l'Allemand Alexander Zverev. Chacun a remporté un set et nous en sommes dans le troisième.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, donc la fac de Tolbiac évacuée, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Alors aujourd'hui, c'est un peu évolué puisque une délégation de zadistes a été reçue par la préfète et ils seraient d'accord désormais pour déposer des projets nominatifs, c'est-à-dire accepter aussi le souhait du gouvernement. Maintenant, c'est également la SNCF où le mouvement social perdure, mais semble un peu entre deux eaux. Alors si hier les syndicats n'étaient pas ensemble dans la rue, ils ont fait bloc pour claquer la porte. Discussion avec la ministre des Transports Elisabeth Borne et demande désormais à être reçue par Édouard Philippe. Et vous allez l'entendre, c'est ce qu'on appelle se prendre un vent, tout simplement. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux.
On ne choisit pas son interlocuteur. Le meilleur moyen pour discuter, ça n'est pas de quitter la table et de claquer la porte, c'est d'y revenir avec évidemment la détermination et les convictions que chacun défend. C'est parfaitement légitime. Mais c'est en s'asseyant autour de la table qu'on arrive à avancer et les discussions se feront avec Madame Elisabeth Borne ministre des Transports en charge du dossier.
Voilà, Benjamin Griveaux, donc aujourd'hui, après le Conseil des ministres, Éric Scholl, le gouvernement continue à être inflexible. Ça fonctionne, la stratégie de l'usure, justement
Droit dans ses bottes.
Oui, c'est ça, bien sûr.
Et effectivement, pour le moment, ça fonctionne, puisqu'il voit, le gouvernement voit qu'il y a effectivement une grève, qu'il y a de la contestation. On ne peut pas dire non plus que la mobilisation soit très forte. Donc le gouvernement est dans cette stratégie d'usure, de continuation jusqu'au bout pour essayer à un moment ou à un autre d'imposer sa loi. C'est assez, il a cette logique depuis le début, il faut lui reconnaître qu'il y a une certaine cohérence.
Oui, c'est ça. Justement, pas du tout. Mais pas du tout, parce qu'il n'y a pas du tout de stratégie d'usure à partir du moment où on intervient de manière musclée à Tolbiac, où on fait évacuer la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On est dans une stratégie mixte qui est à la fois de tenir son cap et en même temps d'intervenir avec la maréchaussée, c'est quelque chose qui n'est pas du tout cohérent, qui est totalement contradictoire.
Je ne crois pas avoir dit l'inverse.
Non, il n'y a pas de dur.
Moi, je pense qu'il y a une volonté d'aller vite, peur que le mouvement se propage, en disant la mobilisation, si elle tient sur le temps long, peut tenir. Parce que les cheminots, quand ils ont choisi de faire une grève perlée, comme ils ont appelé, où c'est deux jours par semaine, ils avaient en tête d'emmener d'autres contestations sociales. Et l'idée de la convergence des luttes chère à la France insoumise, elle est posée sur le tapis. Est-ce qu'elle va arriver ou pas? C'est la question. Mais c'est aussi la peur de ce gouvernement de dire, mais vous rendez-vous compte, si les cheminots sont capables de tenir, alors d'autres vont venir. Et si d'autres viennent, et notamment les étudiants, ils sont capables de tenir aussi jusqu'à l'été. Et c'est le cas. Tolbiac va pas réouvrir, donc ils ont gagné. L'occupation a gagné. Là, le fait de casser le mouvement étudiant, c'est la preuve qu'il y a une peur que ça converge et que ça coagule et que finalement, les oppositions arrivent après politique à se greffer sur ces mouvements.
Alors cette crainte, Étienne Girard, au Conseil des ministres, Emmanuel Macron a dit que lui ne croyait pas du tout à cette convergence des luttes car elles étaient finalement, bien sûr, mais comme elles étaient trop différentes entre elles. Et on l'a vu hier, ça n'a pas été un immense succès de la part de la CGT et de Solidaire.
Il a plutôt raison d'analyser ce qui se passe comme un échec du mouvement syndical de faire converger des luttes différentes. Mais ce qui est frappant, c'est que ce gouvernement-là n'est peut-être pas fébrile, mais en tout cas a bien conscience qu'il ne peut pas rester les bras croisés, parce que depuis le début du mouvement, il est extrêmement offensif. Il y a une volonté de ne pas subir. Et alors, on est droit dans ses bottes, exactement comme Juppé en 1995. Mais la différence, à mon sens, elle est dans la méthode, c'est-à-dire que en 1995, on a un Juppé qui est resté passif, qui a dit j'ai la légitimité parlementaire, donc le projet passera. Et là, on a un gouvernement qui rend coup pour coup. On est l'État de droit, donc on va investir les facs. Les zadistes, on va les faire partir. Donc c'est une vraie stratégie de l'autorité et beaucoup plus ferme qu'il y a maintenant 20 ans.
20 ans, et oui, déjà, oui, exactement.
C'est pire que ça. Regardez, Emmanuel Macron, qui devait être le président jupitérien au-dessus de la mêlée, il passe son temps à aller au contact, à être sur les plateaux télé et à venir parler. On n'a jamais vu ça. Enfin, c'est le président qui est là pour défendre sa politique, alors pas de manière pédagogique ou pas, mais vraiment, on sent qu'il y a péril en la demeure.
Et puis, alors, il y a péril en la demeure, mais il y avait un article aujourd'hui dans Le Parisien, aujourd'hui en France, où il disait qu'Emmanuel Macron était bien seul, en fait. C'est-à-dire que c'est le seul aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de troupes, peut-être aussi, Antoine Bonneau.
Mais tout ça, c'est pas tellement étonnant parce que c'est aussi le fait d'un président de la République et d'un gouvernement à qui tout a souri jusqu'ici. Et maintenant, il se trouve effectivement confronté à des difficultés, donc il est bien obligé de montrer les muscles.
Alors, Éric Scholl, les syndicats aujourd'hui, que ce soit la CGT ou la CFDT, ont claqué la porte d'Elisabeth Borne, c'est tout simplement avec la même chose en disant, parce qu'on avait donné, c'est futé dans les médias, la date, vous savez, la fameuse date de la fin du recrutement au statut de cheminot, ça sera le 1er janvier 2020. Eux, ils ont dit, nous on a appris cette date, comme ça, par hasard, en écoutant sûrement France Info. Mais ça veut dire que pour eux, dans leur idée, c'est que tout est déjà écrit. Donc à quoi ça sert de négocier?
C'est la crainte depuis le début, c'est qu'effectivement le projet a été ficelé, et dans la méthode, on a quand même l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choses à négocier. Il y a une sorte d'apparence de négociation, en tout cas de discussion, de dialogue, mais au fond, il n'y a pas beaucoup de choses à discuter. C'est là où l'expression « droit dans les bottes » est sans doute juste, c'est-à-dire qu'il va peut-être à un moment ou à un autre falloir revenir en arrière. Mais je suis persuadé que ça va se faire, ça va se faire parce que le gouvernement veut absolument finir et clore ce dossier de SNCF. Donc à un moment, il va devoir donner.
Alors une chose, justement à propos de gouvernance d'entreprise et de problèmes de syndicats, je voulais juste avoir votre avis là-dessus. C'est aujourd'hui Jean-Marc Janaïa, qui est le PDG d'Air France, qui a décidé d'organiser une consultation interne. Vous savez, en ce moment, Air France subit des mouvements de grève pour sortir de la grève. Et donc les salariés devront se positionner sur les accords salariaux rejetés par les syndicats. Antoine Bonneau, c'est une idée aussi de sa part pour dire on va sortir comme ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les syndicats pourraient en sortir véritablement affaiblis de ce genre d'initiative?
Ah bah de toute façon, pour les syndicats, on ne peut pas dire que la période soit très très bonne. Hein. C'est même une descente aux enfers. Et de fait, le droit du travail, le droit syndical, permet aujourd'hui de contourner effectivement par d'autres moyens, et qui ne sont pas forcément de mauvais moyens d'ailleurs, parce que permettre une forme de démocratie directe au sein de l'entreprise, c'est un mouvement de fond qui a quelques années et qui peut bien fonctionner.
Mais Étienne Girard, pour vous, est-ce qu'aujourd'hui les syndicats, voilà, quand on voit ce genre d'initiative, on se souvient d'ailleurs, il y avait eu une sorte de référendum aussi chez Smart Renault, on s'en souvient, pour revenir aux 39 heures le temps d'une période. Est-ce que ça, ce sont des choses aujourd'hui qui intéressent, c'est des pistes qui intéressent les référendums en entreprise?
Alors, ce qui est sûr, c'est que les syndicats n'ont pas le vent en poupe et que ce genre d'initiative est voué à se multiplier.
Ouais.
Ce qui a de possiblement inquiétant, c'est que le rapport de force dans l'entreprise, dans ce cas-là, il change de nature. C'est qu'on a un entrepreneur, un patron et des salariés, mais qui ne sont pas, qui n'appartiennent pas à une centrale forte, et donc qui peuvent possiblement être affaiblis dans leur mode de négociation et dans leur marge de manœuvre face à ces patrons-là. Il faut pas se leurrer, c'est aussi une manière d'éviter peut-être et d'intimider les salariés d'une entreprise. On passe outre les syndicats pour faire avaliser des propositions moins favorables aux salariés.
Ça avait été d'ailleurs une des pierres d'achoppement au moment de la loi El Khomri, hein, ce référendum en entreprise, Alexis Poulain.
Mais ça va d'un mouvement global. Il y a un rapport de la Banque mondiale qui est sorti ces jours-ci, qui dit qu'il faut absolument casser les réglementations de protection des travailleurs, parce qu'avec la robotisation, avec les algorithmes, il faut vraiment arriver à que tout le monde soit un petit travailleur dans son coin de Uber, sinon le marché du travail va pas y arriver. C'est complètement une guerre idéologique qui est en train de se faire sur le dos des travailleurs. Le fait de casser les syndicats, il passe par là, par le fait de faire croire qu'il y aura de la démocratie en entreprise. Tant que la démocratie, c'est pas décider de la gouvernance, c'est pas vraiment de la démocratie. C'est un patron qui consulte, et puis c'est une sorte de référendum.
Et en même temps, il y a une réalité en France, c'est qu'on est de moins en moins syndiqués aussi.
Bien sûr, c'est une réalité, et qu'au sein des syndicats, vous avez en plus un fossé grandissant entre les direction et la base.
Ouais.
Où là aussi, c'est une grande question sur l'avenir des syndicats, comment ça va se passer, et le fait de choisir aussi des silos et de ne pas avoir cette vision globale de protection des travailleurs.
Ouais, Eric Scholl aussi, c'est vrai que ça interroge en ce moment aussi sur le rôle des syndicats, ces fameux corps intermédiaires.
Bah, donc
corps
sur la représentativité des
syndicats. Ouais, c'est ça.
Alors, la question, elle est là, savoir si ces syndicats sont à la fois représentatifs et surtout s'ils incarnent aujourd'hui, justement, ces nouveaux sujets sur lesquels il faut aller. Vous parliez de l'ubérisation de la société, c'est des sujets sur lesquels il faut être.
Oui.
Pas forcément la CFTT d'une façon totalement
a lancé
sectaire.
D'ailleurs une branche pour ses travailleurs des plateformes.
Allez, c'est nouveau. Dans un instant, on va partir à l'Assemblée nationale. L'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
Jean-Yves Le Drian commence à s'impatienter après l'attaque chimique présumée à Douma. Le ministre des Affaires étrangères considère que l'attitude de la Russie et de la Syrie vise à faire disparaître les preuves matérielles. Il réclame ce soir un accès complet, immédiat et sans entrave pour les enquêteurs de l'OIAC. Le tribunal administratif de Reims réclame une nouvelle expertise pour Vincent Lambert avant de confirmer ou d'annuler la décision de l'hôpital de Reims. Les médecins souhaitent toujours arrêter les traitements de ce patient hospitalisé depuis des années dans un état végétatif. Vers une possible sortie de crise à Notre-Dame-des-Landes, les zadistes acceptent ce soir de déposer des projets nominatifs pour disposer légalement des terrains, comme le demandait le gouvernement. Le bilan d'une réunion avec la préfète des Pays de la Loire. Nouvelle rencontre entre les deux parties lundi prochain. Une plaque commémorative à la mémoire de Xavier Jugelet. Un hommage cet après-midi de la mairie de Paris en présence du chef de l'État. Un an jour pour jour après l'attentat djihadiste sur les Champs-Élysées et la mort de ce policier de 37 ans. Emmanuel Macron a décoré les 5 coéquipiers de l'agent assassiné. Et puis la région Provence-Alpes-Côte d'Azur renonce au portique de sécurité fixe dans ses gares. Trop compliqué pour des contrôles aux heures de pointe. Et certaines gares du sud de la France ne sont pas configurées pour permettre à ces installations d'être mises en place. Installations censées faire diminuer la délinquance, mais aussi la menace terroriste.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors surtout, si vous croisez un ou une députée, ne lui souhaitez pas un bon week-end, ça va le stresser encore plus. En effet, samedi voire dimanche, l'Assemblée nationale joue les prolongations afin de voter la loi Asile et Immigration qui donne, vous le savez, quelques suées au gouvernement. Parmi les points les plus polémiques, réduire de 11 à 6 mois la durée moyenne de traitement des demandes d'asile en France et l'augmentation de la durée maximale de séjour en centre détention. Depuis lundi, les débats sont houleux et vraiment tendus entre Gérard Collomb et l'opposition. Comme vous allez l'entendre, cette député socialiste qui adresse un message assez clair à La République En Marche, Laurence Dumont.
Je vous ai dit hier que ce que le gouvernement faisait et la majorité était dangereux. J'ai dit aussi que les discours Front National et Les Républicains étaient nauséabonds. Mais je vous le dis avec une certaine gravité, comme Clémentine Autain, nous n'avons pas voté Emmanuel Macron il y a un an pour battre le Front National, car c'était notre seule motivation pour voir ce soir Madame Le Pen vous apporter son renfort pour démanteler le droit d'asile.
Voilà, Laurence Dumont, donc députée socialiste. Étienne Charles, c'est vrai que ça a été assez tendu toute la semaine. Véritablement, on va montrer des extraits encore tout à l'heure. On sent qu'il y a eu véritablement une crispation autour de ce sujet, c'est normal parce que c'est un sujet essentiel aujourd'hui dans notre démocratie.
Hein. Le sujet de l'immigration en France, ça fait 30 ans que c'est explosif. Et que dès que un homme politique commence à parler d'immigration, on entend des cris d'orfraie de part et d'autre d'un plateau télé ou d'un hémicycle. Donc c'est pas du tout étonnant. En l'espèce, est-ce que ce projet-là est réellement un projet extrêmement liberticide ? C'est un projet, et Gérard Collomb ne s'en est pas caché, qui a pour vocation de dissuader une partie des migrants et des candidats à l'asile, des demandeurs d'asile, de venir en France. C'est vrai. Est-ce que les moyens utilisés sont odieux ? Alors, on joue sur des délais, surtout. C'est des histoires de délais. On peut évidemment le contester et considérer que y a un déficit d'humanisme dans ce projet de loi. Et c'est vrai que peut-être qu'il n'y a pas eu ce débat-là, notamment au sein de la majorité macroniste. C'est vrai qu'ils n'ont pas...
Non, c'est vrai, ils n'ont pas...
On nous a expliqué que c'était on n'avait pas le choix. Voilà, c'est une subversion migratoire.
Les mots, en effet...
Trop d'immigrés.
Vous utilisez le mot subversion parce que c'est Gérard Collomb lui-même qui l'a utilisé, en effet. Mais on voit, Antoine Bueno, on voit une chose, c'est qu'on voit la gauche qui trouve que c'est n'est pas assez humaniste. On voit la droite qui dit c'est trop laxiste. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Et il est vrai qu'aussi, ce projet de loi, peut-être qu'on ne l'attendait pas de la part d'Emmanuel Macron.
Parce que c'est pas ce qu'il nous avait dit pendant la campagne. En réalité, on pouvait l'attendre pour une raison très simple. C'est que tout ce que fait Emmanuel Macron, c'est peut-être en le faisant un petit peu plus et un petit peu plus visiblement, ce qu'ont fait tous les gouvernements depuis 30 ans. Donc là, en l'occurrence, ce texte-là, il s'inscrit dans la droite ligne de toutes les lois qui ont été adoptées depuis 30 ans en matière d'immigration. Et on continuera d'avoir ce genre de débat tant qu'on ne dira pas la vérité, à savoir que dans un pays démocratique et humaniste, c'est extrêmement compliqué, voire impossible, de dissuader l'immigration.
Oui, Alexis Poulain.
Dissuader, et c'est aussi une question de moyens. Qu'est-ce qu'on met pour accueillir, pour trier les dossiers, pour dire, voilà, réduire les délais à 15 jours, sachant déjà aujourd'hui combien c'est compliqué pour se faire régulariser, pour y arriver, c'est évidemment à dessein d'empêcher qu'il y ait une démarche ou qu'elle arrive. Donc il y a vraiment une volonté dissuasive, certes, mais il y a aussi des réalités sur le territoire. Il y a eu des enfants qui ont été allés chercher dans les écoles par des policiers. Enfin, on est dans des situations qui ne devraient pas exister dans un pays comme la France. Donc c'est vrai que le débat, c'est le feu. On ne peut pas être d'accord sur la façon dont c'est fait. Mais la vraie question, c'est comment on n'est pas capable d'avoir les moyens d'accueillir l'immigration. Et c'est pas que la France, c'est l'Europe. Cette question de l'immigration, elle est centrale pour l'avenir de l'Europe.
Alors, si on n'est pas capable. Alors justement, on va continuer à parler de ça dans un instant, mais juste une chose, juste pour finir cette demi-heure. Éric Scholz, c'est vrai que l'argument, c'est de dire, mais notre loi, nous, on s'adapte juste aux réglementations européennes.
Moi, je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Alexis Poulain. On devait faire un geste d'humanité, ce qu'était le discours d'Emmanuel Macron pendant sa campagne électorale. Et là, il a choisi d'être dans le sécuritaire. Il l'a choisi certainement pour des raisons politiques. Et avec quand même, on se dit, voilà, ça fait 30 ans qu'il y a cette politique. Non, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé depuis 30 ans. Il y a ce qui se passe depuis 3 ans, depuis 4 ans, depuis 5 ans. Il y a eu tous ces réfugiés qui sont arrivés depuis la guerre de Syrie. Et il y en a d'autres qui arrivent aussi, effectivement, d'ailleurs. Mais il y a un moment où on prend les choses en main et la France ne l'a pas fait et refuse de le faire. C'est-à-dire que on a laissé ces sujets-là à la Grèce, à l'Italie, et pour moi, c'est une démission sur ce sujet. C'est une démission pour des raisons politiques, très clairement, parce qu'on s'inscrit sur un plan politique, on n'a pas envie, on sait ce qui s'est passé en Allemagne, on sait que ça a coûté politiquement à Angela Merkel lorsqu'elle a eu grand discours, disons, humaniste, d'accueil et d'ouverture, et à mon avis, la France et l'Europe manquent à leur mission et à leur vocation.
Alors, on va continuer à en parler dans un instant. instant, dans la deuxième partie des informés, on aura même un son magnifique hein, de Jacqueline Gourault. Mais qui est Jacqueline Gourault? Eh bien, c'est la ministre du ministre. Et oui, ça existe en France. Ministre au ministre de l'Intérieur. On parlera également d'Emmanuel Macron hein, qui part de l'autre côté de l'Atlantique dimanche. Et puis, on verra pour le reste si on a un peu de temps. Voilà. C'était à carte un peu ce soir, les informés de France Info. C'est juste avant le week-end. On se retrouve, nous, dans quelques minutes.
C'est souvent quand nous sommes persuadés de connaître quelque chose que nous passons à côté. Gamme Audi A3. Vous pensiez la connaître? Venez la découvrir. Audi A3 Sportback, Audi A3 Berline, Audi A3 Cabriolet et Audi S3. Découvrez la gamme Audi A3 comme vous ne l'avez jamais vue. À partir de 299€ par mois sans apport, avec entretien et extension de garantie offerte.
Offre en location longue durée sur 36 mois et 45 000 km pour une Audi A3 Sportback. Réservée aux particuliers chez les distributeurs participants sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Voir conditions sur Audi.fr.
Le festival Jazz sous les pommiers du 5 au 12 mai. 8 jours non-stop de musique live, de création et de concerts inédits. Avec Stanley Clark, Rhoda Scott, Kamasi Washington, China Moses, Corey Henry, Mélanie De Biasio, mais aussi Anne Passeo, Raphaël Imbert, Richard Galliano, Émile Parisien et bien d'autres. Plus de 60 concerts, des animations, des spectacles de rue, des expos. La 37e édition de Jazz sous les pommiers du 5 au 12 mai à Coutances avec la région Normandie. Renseignements sur www.jazzsouslespommiers.com.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, récolté à la main par les petits producteurs dans le respect de la biodiversité. À retrouver sur malongo.com.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Encore estival ce week-end, on en profite. Demain, beaucoup de soleil, plus de nuages sur la Bretagne et la Normandie avec une petite averse possible. Ça pourrait tourner à l'orage en l'après-midi. Les thermomètres garderont des niveaux remarquablement élevés, 11 à 16 degrés le matin. L'après-midi, 22 degrés à Nice, 23 à Cherbourg, 27 à Angers et Marseille, 28 degrés à Reims, Tours, Nevers, Bordeaux, 29 à Paris, Mulhouse, Lyon ou Limoges, et puis 30 degrés à Grenoble. Dimanche, le soleil aura encore largement l'avantage. Il faudra quand même composer avec des passages nuageux au nord de la Loire. Des orages pourraient éclater entre la Normandie, la région parisienne et le nord de la Seine. Les températures commenceront à baisser par le nord-ouest. 17 degrés à Brest, 24 à Nantes ou à Rouen, mais encore 27 degrés à Paris, 28 à Toulouse, 29 à Strasbourg et à Lyon.
Avec meilleurtaux.com, comparez les assurances auto. Économisez 335€ en moyenne et bénéficiez d'un mois offert, quel que soit l'assureur. Conditions sur meilleurtaux.com, courtier inscrit à l'Orias.
Et il est 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Augustin Rivet, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Richard Gasquet reprend le contrôle de son match face à l'Allemand Alexander Zverev. Ce sont les quarts de finale du tournoi de tennis de Monte-Carlo. Fabrice Abgral, 1-7 partout et 4 jeux à 3 pour le Français dans le troisième set.
En effet, Richard Gasquet qui a fait le break, il vient de prendre le service de Alexander Zverev. Il mène 4 jeux à 3, mais attention, 2 balles de débreak en faveur d'Alexander Zverev. Un match extraordinaire, un niveau de jeu proposé par les joueurs qui est vraiment fabuleux actuellement sur le court, alors que Richard Gasquet était complètement à la dérive, mais il a trouvé un second souffle. Richard Gasquet, il mène 4 jeux à 3, il a un break d'avance, mais il a 2 balles de débreak en faveur d'Alexander Zverev.
Merci Fabrice Avgral. Nantes face à Rennes en Ligue 1 de football, 34e journée. Il y a 1-0 pour Nantes à la mi-temps. À 21h, Dijon affrontera l'Olympique Lyonnais et on a atteint la demi-heure de jeu sur le terrain Rémois Reims face à l'AC Ajaccio. Si le Stade de Reims remporte ce match, le club sera champion de Ligue 2 ce soir. Et bien, pour l'instant, il y a toujours 0 partout. Vincent Lambert fera l'objet d'une nouvelle expertise médicale. Ainsi en a décidé le tribunal administratif saisi par ses parents qui s'opposent à l'arrêt des soins prônés par les médecins. Vincent Lambert dans un état végétatif depuis un accident de voiture il y a maintenant 10 ans. Un hommage rendu sur les Champs-Élysées à Paris à Xavier Jugelet, ce policier tué il y a tout juste un an par un terroriste. Cérémonie en présence d'Emmanuel Macron, Gérard Collomb et Anne Hidalgo. Les 5 équipiers du policier ont reçu les insignes de chevalier dans l'Ordre National du Mérite. Les cours ne reprendront pas avant septembre sur le site de Tolbiac de l'université Panthéon-Sorbonne, site évacué par la police ce matin à Paris, comme hier soir déjà l'université de Strasbourg. En revanche, la présidence de l'université d'Avignon a décidé de fermer le campus jusqu'à lundi par mesure de sécurité. La situation semble se débloquer à Notre-Dame-des-Landes. La délégation d'occupants reçue par la préfète aujourd'hui a accepté les demandes des pouvoirs publics. Ils ont déposé, ces zadistes, une quarantaine de dossiers nominatifs pour justifier des maintiens de projets sur la ZAD. Le prochain jour de grève, ce sera lundi à la SNCF, mais également chez Air France. La direction de la compagnie aérienne a décidé d'organiser un vote électronique. Le PDG Jean-Marc Janaillac annonce qu'il démissionnera si jamais une majorité de salariés soutient alors l'intersyndicale. Le DJ Avicii est mort à 28 ans. Il faisait partie des nominations révélées cette semaine pour les prochains Billboard Music Awards aux États-Unis. En 2013, il signait le tube électro Wake Me Up. 20h33, c'est le moment de retrouver les informés jusqu'à 21h. Sur France Info, c'est toujours avec Jean-Mathieu Pernin.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT, alors que Manuel Valls a annoncé qu'il serait intéressé par briguer la mairie de Barcelone en 2019 et que... Bah en fait, est-ce que ça nécessite de rajouter quelque chose? Je sais pas. Voilà. Bon, bref, eux, ils sont tout de même venus. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent le journaliste européen Alexis Poulain, Étienne Girard de Marianne, Éric Scholl, directeur de Courrier International, et l'essayiste Antoine Bueno. Nous étions en train de parler de la loi asile et immigration, puisque, vous savez, ça a commencé les discussions lundi dernier. Le vote devait avoir lieu aujourd'hui. Et en fait, ça va se prolonger tout le week-end. Antoine Bueno, vous vouliez aussi réagir sur ce que disait tout à l'heure Éric Scholl concernant aujourd'hui la France, qui ne prend pas peut-être sa part par rapport justement à cette immigration, toujours cette interrogation et ce côté politique.
Le principal manque, c'est l'absence complète jusqu'ici de politique d'accueil. Parce que à partir du moment où on ne peut pas empêcher les uns et les autres de franchir les frontières, notamment les frontières maritimes, comment on fait concrètement? Personne n'a jamais apporté la réponse à ça. Il faut organiser les choses pour que l'accueil se fasse. Et pour l'instant, ça n'a pas été fait.
Mmh. Mais alors, vous le voyez, on le voit quand même dans des enquêtes d'opinion. Alors, ça vaut ce que ça vaut, mais on voit des Français qui se prononcent pour le droit d'asile, mais qui souhaiteraient peut-être moins d'immigration aussi. Éric Scholl, on voit que c'est un sentiment.
C'est une contradiction, mais cette contradiction, on la retrouve dans la plupart des pays européens. Mais il faut savoir surmonter cette contradiction et à un moment faire face à ses responsabilités, et notamment qui passe par une capacité d'accueil. On n'est pas en train de parler. Et l'Allemagne a quand même réussi à accueillir à peu près 800 000 ou 900 000 réfugiés en l'espace d'un an et demi. On parle pas du tout de ces chiffres-là.
Mais vous voyez ce que tout à l'heure vous parliez de l'argument politique, et c'est vrai, Gérard Collomb l'a dit en commission. Il a dit si on ne fait pas cette loi, c'est comme en Allemagne où l'AFD, le parti d'extrême droite, à ce moment-là serait troisième force, deuxième force.
Oui, enfin, Angela Merkel a quand même été réélue, voilà, c'était un peu compliqué, mais elle a quand même été réélue.
Ouais, c'est ça. Alors, une chose, Étienne Girard, on parle beaucoup des frondeurs, marcheurs qui seraient comptés. Et aujourd'hui, donc, les députés ont voté l'un des points les plus contestés de la loi asile et immigration, c'est celui de diviser par deux le délai pour un migrant qui souhaite former un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile après un rejet de la demande d'asile de l'OFPRA. Et parmi les marcheurs, ils sont 8 à avoir voté contre. Alors, si le chiffre se confirme sur l'ensemble de la loi dimanche, on se demande finalement pourquoi ces petits frondeurs angoissent tellement La République En Marche. Ils sont que 8.
Mais parce que Emmanuel Macron s'est construit en anti-Hollande. Mmh. Et ce qui pétrifie, ce qui rend fébrile En Marche, c'est d'avoir des frondeurs et donc cette petite musique incessante à chaque projet de loi d'adversaires de l'intérieur qui diront oui, mais ce n'est pas assez à gauche, oui, mais ce n'est pas assez humaniste, etc. etc. Donc il y a une volonté de brimer dès le départ personnes-là. Ouais. Et c'est pour ça que Richard Ferrand a annoncé que ceux qui voteront contre le projet de loi seront virés.
Rien que de qualifier de frondeur des gens qui, sur un vote, ne vont pas voter comme le demande le gouvernement, c'est un délire total.
Mmh. Alors, il y a juste deux choses. Je voudrais vous faire écouter deux sons qui ont marqué justement cette semaine de débat assez agité. Le premier, alors, c'est un lapsus. Un lapsus terrible. C'est la présidente de l'Assemblée, hier, Carole Bureau-Bonnard, alors qu'elle devait clore la prise de parole du ministre de l'Intérieur pour laisser... Eh bien, la parole à Marine Le Pen, députée du Pas-de-Calais. Et voilà comment elle a présenté Gérard Collomb. Alors, je ne sais pas d'où ça sort, mais en tout cas, elle l'a pensé et elle s'en excuse. D'ailleurs, sur les images, on écoute Carole Bureau-Bonnard.
Je vous remercie, Madame Le Pen. Pardon, Monsieur le Ministre, excusez-moi. Monsieur le Ministre, vous avez la parole.
Voilà, donc tout simplement, c'est un peu compliqué.
On sait d'où ça sort, c'est qu'elle devait juste après donner la parole à Marine Le Pen.
C'est ça. Et alors, bon, bien sûr, l'autre intervention, c'est celle qui a marqué cette semaine, c'est celle de Jacqueline Gourault. Alors, Jacqueline Gourault, elle est ministre auprès du ministre de l'Intérieur, et elle a dû, à un moment, répondre, elle a remplacé Gérard Collomb, elle a dû répondre aux questions du groupe Les Républicains, qui n'arrêtait pas de lui dire, mais s'il y a un chiffre caché du nombre de régulations, et à un moment, bien, elle a craqué. Pourquoi elle a craqué, Jacqueline Gourault? Parce que d'un coup, elle s'est rendue compte qu'elle était ministre. Eh bien, on l'écoute, Jacqueline Gourault.
Qu'est-ce que c'est que d'obliger un ministre à répondre? Oui, vous me laissez parler, s'il vous plaît. Et vous voyez comment vous réagissez. Ce sont des méthodes autoritaires qui ne sont pas acceptables dans une démocratie. On ne fait pas de pression ainsi. Mais qu'est-ce que c'est que ces méthodes? Mais qu'est-ce que c'est?
Voilà, donc c'est un peu bardé. Alors, vous vouliez la défendre, Antoine Bougeau-Maïdi.
Moi, je voulais la défendre parce qu'effectivement, vu comme ça, on comprend pas très bien, mais il faut recontextualiser. C'est qu'en fait, il y a eu une forme d'obstruction qui a été organisée, en l'occurrence, par les députés, les Républicains, qui n'ont pas arrêté, comme un gimmick, de demander combien il y aurait de régularisation de sans-papiers consécutivement à l'adoption de cette loi, en échange de l'adoption de cette loi. Donc voilà, ça n'arrêtait pas et elle est humaine. Hein.
Elle a un peu craqué. Oui. Alors une chose tout de même, Alexis Poulain, sur le point de vue politique. Ce que disait tout à l'heure Éric Scholl, finalement, on voit des enquêtes d'opinion sur l'immigration. On se souvient, c'était un peu le même argument également sous François Hollande avec Manuel Valls. On se souvient de ces fameux, comment on appelle ça, verrous, je crois, imaginés par l'Union européenne. Ça veut dire que chacun devait prendre sa part de l'accueil. C'était, en gros, si on accueille plus de 60 000 personnes, vous allez avoir le Front National au second tour.
Bon, on l'a. Il a été au second tour. Mais voilà, c'est ancienne de dire que voilà l'accueil d'immigrants va forcément faire monter l'extrême droite, avec ou sans. Enfin, regardez la Hongrie qui a fermé absolument ses frontières. Regardez qui est au pouvoir, c'est Viktor Orban. Donc c'est pas l'accueil des migrants, c'est le discours xénophobe qui fait monter ces partis xénophobes. Et qu'est-ce que c'est le discours xénophobe? C'est de dire on peut pas, vous rendez-vous compte, accueillir la misère du monde. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Mais faire la politique, c'est justement s'attaquer aux choses difficiles. Les choses faciles, c'est effectivement faire des lois clientélistes, faire des lois où on est sûr à peu près de mettre tout le monde d'accord, même si là, effectivement, la droite trouve que c'est pas encore c'est pas assez. Évidemment. Mais avoir une politique d'accueil, ça coûte cher. Justifier ça auprès de constituants en disant oui, il va falloir donner de l'argent à des gens qui ne sont pas français. Alors oui, ça, c'est franchement donner, effectivement, beaucoup de voix au Front National. C'est malheureux, mais là, s'il y a une question de faire de la pédagogie, c'est sur cette question-là. Et on peut pas bombarder la Syrie d'un côté et ne pas accueillir les réfugiés qui sont victimes de cette guerre qui dure depuis 7 ans.
Une politique d'accueil, ça coûte cher peut-être au départ, mais ça rapporte aussi.
Hein. Évidemment.
Faut quand même le dire. Hein. Parce que quand les gens sont bien accueillis, ils peuvent trouver du travail, ils peuvent contribuer au PIB national, etc. etc.
Bien sûr. C'est ce dont d'ailleurs le patronat allemand avait parlé aux côtés d'Angela Merkel. Allez, dans un instant, on va partir de l'autre côté de l'Atlantique. Mais qu'est-ce qu'on voyage après l'Assemblée nationale maintenant? L'Amérique. Ce soir, l'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
Après 9 jours de grève, Air France va consulter le personnel pour sa proposition sur les salaires, des augmentations refusées en l'état par l'intersyndicale. Et Jean-Marc Janeillac le confirme, si le résultat du vote est négatif, il quittera la présidence de la compagnie aérienne. Avec des amendements par centaines, la poursuite ce soir de l'examen de la loi Asile et Immigration, l'Assemblée nationale a voté ce matin la réduction à 15 jours du délai d'appel après le rejet d'une demande d'asile. 8 députés de La République En Marche ont voté contre. La mort du DJ suédois Avicii, il était l'un des plus célèbres de la scène électro. Il a été retrouvé sans vie à Mascate, dans le sultanat d'Oman. Il avait 28 ans. Les causes de son décès ne sont pas précisées. La suite des quarts de finale du tournoi de Monte Carlo, Richard Gasquet et l'Allemand Alexander Zverev sont au coude à coude dans le troisième set. Juste avant, le Japonais Nishikori s'est qualifié, tout comme Rafael Nadal. Et puis, il n'y a pas que sur le rocher que le soleil brille et surtout qu'il fait chaud. Ce vendredi a été marqué par de nouveaux records de chaleur en France, 31,1 pour Saint-Maur dans le Val-de-Marne, selon Météo France, du jamais vu à cette date depuis 1949, 28 à 29 degrés dans plusieurs villes de la région parisienne.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Connaissez-vous le mot bromance? Vous savez, c'est un mot valise anglais où se mélangent brother, donc frère, et romance. Une amitié forte entre deux hommes avec un niveau émotionnel élevé, des démonstrations d'intimité forte. Et quand on voit Donald Trump et Emmanuel Macron ensemble, on se demande... C'est pas un petit truc quand même, hein, parce que je te serre fort la main, non, c'est moi le plus fort, tu sors de l'accord climat, et ben je t'embête moi parce que moi j'y rentre et je prends le lead, tu viens à Paris, j'arrive pas à te quitter, je vais aussi faire mon défilé militaire, on attend toujours avec impatience qu'ils nous fassent la chorégraphie de Dirty Dancing, tous les deux, bref, ce sera peut-être au programme puisqu'Emmanuel et Donald ne vont plus se quitter pendant 3 jours. En effet, le président français décolle dimanche pour une visite officielle aux États-Unis avec en point d'orgue un discours devant le congrès américain mercredi, et d'ailleurs... tellement ils s'entendaient bien. Voilà un exemple de bonne entente entre les deux hommes. C'était le 14 juillet dernier à Paris. On écoute Emmanuel Macron, puis Donald Trump.
Je peux sans hésitation vous dire que ce soir, nous aurons à la Tour Eiffel un dîner d'amis.
Tout va bien se passer parce que vous avez un très bon président. Vous avez quelqu'un qui va bien diriger ce pays. Vous avez un très bon dirigeant. Vous avez un grand président. Vous avez un président fort.
Voilà, donc Donald Trump, je pense qu'on l'a reconnu, et Emmanuel Macron avant, donc c'était le 14 juillet dernier. Éric Scholz, c'est vrai que c'est quelle relation finalement entre les deux? Parce que on a l'impression il y a des relations haine, amour, enfin voilà, ils s'entendent bien, mais ça les empêche pas de se critiquer. J'ai oublié de citer l'exemple, bien sûr, sur aussi l'ambassade à Jérusalem. Emmanuel Macron est contre, Donald Trump.
Il y a beaucoup de sujets sur lesquels ils sont opposés. Oui. Voilà. Il y a énorme, sur le fond, on est dans une, il y a beaucoup, beaucoup de pommes de discorde entre la France et les États-Unis.
Et pourtant, ils montrent toujours une image.
C'était, je dirais, une certaine intelligence pour le coup dans la première rencontre l'an dernier entre les deux de la part d'Emmanuel Macron, de se dire, alors que le monde entier se mettait à détester Donald Trump, il s'est dit, il faut qu'on puisse discuter, donc instaurons une relation interpersonnelle et ayons une vraie relation. Et ça, ça a plutôt bien marché. C'est-à-dire qu'ils se sont revus, il l'a invité à Paris au 14 juillet. Donc il y a un vrai dialogue qui se traduit par des coups de fil réguliers. On sait que ils discutent beaucoup. Maintenant, sur le fond, prenons les sujets les uns après les autres, sur le commerce, on voit il va y avoir l'Iran bientôt, la question iranienne qui va être vraiment, je pense, un des
sur l'accord iranien, veulent en sortir, voilà, c'est ça.
Exactement, les États-Unis veulent en sortir et on sait bien que la France va tout faire pour essayer de préserver cet accord. Donc sur le fond, il y a beaucoup de sujets, il y a évidemment le sujet du climat. Donc si vous voulez, à un moment on a eu Emmanuel Macron qui nous disait vous verrez les États-Unis, je vais les faire revenir dans le climat. Pour l'instant, on n'a rien vu. C'est-à-dire que les moyens de pression de la France sur les États-Unis sont relativement faibles. Maintenant, il ne faut pas négliger quand même cette relation, tant mieux s'il y a une bonne relation entre les deux.
Voilà, est-ce que ça peut aussi servir, peut-être, finalement, aussi cette bonne relation cordiale, entre guillemets?
Je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Donald Trump, Emmanuel Macron, les États-Unis, c'est une doctrine, il faut relire Kissinger. Les faucons à Washington, dans leur vocabulaire, il n'y a pas allié privilégié. Il y a toujours quelqu'un qu'on peut utiliser à des fins de Make America Great Again. Donc, et on l'a vu, quand Emmanuel Macron a dit j'ai changé la position américaine sur la Syrie pour qu'il reste dans le long terme, le lendemain, il dit oh non, j'ai pas vraiment dit ça. Et tout de suite, Trump avait tweeté oh là là, qu'est-ce qu'il raconte. Donc, il ne faut pas se leurrer. Je pense qu'il faut être conscient de ses limites, que la France peut certes influencer peut-être un peu la politique américaine, mais vraiment à la marge. Il y a un agenda qui est fait à Washington par Bolton, par les conseillers qui sont globalement maintenant le retour des faucons, des néocons à Washington. Je ne vois pas la France ici arriver à faire entendre sa voix par rapport à ce qu'a décidé Donald Trump et son équipe.
Et pourtant, Antoine Bonneau, on peut se dire, Donald Trump peut-être aussi c'est un homme, même si il y a une surpuissance américaine, mais c'est malgré tout un homme aussi qui cherche des alliés. Alors, ces alliés, est-ce que finalement d'avoir Emmanuel Macron, avec lequel il ne s'entend sur aucun sujet, mais quand même sur la forme avec qui il s'entend, est-ce que par rapport à nos alliés européens, c'est pas important pour lui?
On peut raisonner par a contrario. Est-ce qu'on pourrait imaginer une relation différente? Une relation où, parce qu'il y a beaucoup d'antagonisme entre les deux pays, les deux hommes se battent froid? Non. Macron, c'est quelqu'un de rationnel. Il sait très bien qu'il doit quand même caresser dans le sens du poil le président des États-Unis, quel que soit le président des États-Unis. Et inversement, Trump, il joue aussi sa partition.
Et Étienne Girard, sur justement cette relation,
il y a un jeu politique quand même de la part d'Emmanuel Macron, c'est qu'en étant très proche de Donald Trump, il montre aussi à Angela Merkel qu'il n'a pas besoin d'elle. Et que si les relations se refroidissent entre la France et l'Allemagne, il peut toujours se reporter sur l'ami américain. Puis il y a autre chose, c'est plus au niveau de la forme, mais c'est que par effet de contraste, Donald Trump est le partenaire idéal pour Emmanuel Macron. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a un vocabulaire très riche, Donald Trump a un vocabulaire très pauvre. Emmanuel Macron a fait les meilleures écoles. Donald Trump apparaît comme quelqu'un de pas...
Même, oui, il a fait les meilleures écoles, quand même, Donald Trump.
Oui, oui, mais alors n'apparaît pas comme un expert des questions diplomatiques. Alors, pour être un peu trivial, c'est un peu l'histoire, vous savez, de la belle fille en soirée qui aime être accompagnée d'une fille beaucoup moins jolie pour briller encore plus. Ouais. Voilà, au niveau capital sympathie qu'il engrange sur la scène internationale, voir ce duo ensemble, ça lui est très profitable.
Je pense que ça lui est profitable et c'est une stratégie aussi qu'on a vu avec l'accueil de Poutine à Versailles, etc. C'est aussi la volonté d'Emmanuel Macron de se positionner sur la scène internationale comme la figure forte en Europe par rapport à Angela Merkel. Enfin, on va dire, oui, l'Europe, c'est Macron.
Qui sera reçu après Emmanuel Macron, d'ailleurs, bien sûr. Angela Merkel, pardon. Voilà.
Mais clairement, dès son arrivée au pouvoir, l'idée pour Macron a été d'être l'interlocuteur numéro un de ces grands leaders de grands blocs pour dire, voilà, si je dois être la figure reconnue de l'Europe, ce sera moi.
Éric Scholl, dimanche, Fox News diffusera une interview d'Emmanuel Macron. On sait que c'est la chaîne préférée de Donald Trump. C'est pas un hasard aussi d'aller chez la chaîne conservatrice.
Si, mais ça fait partie de toute une stratégie de communication. Voilà, il profite du fait qu'il est très à l'aise en anglais. Effectivement, il va sur cette chaîne pour aller. Mais comme c'est exactement de la même façon qu'il a fait l'an dernier sur le climat. Alors, sauf que là, il a pris à revers le Donald Trump en disant qu'il fallait absolument le faire revenir dans le plan climat. Bon, on voit bien qu'il est... Effectivement, Emmanuel Macron, il veut exister comme finalement le représentant européen.
Oui, c'est ça.
Il a raison de le faire, parce qu'il n'y a personne aujourd'hui en Europe. Il y a Angela Merkel, même si elle était réélue, elle est très affaiblie, et il n'y a plus personne. Donc il se dit qu'il a une carte à jouer, et pour lui, effectivement, ça agrandit un peu sa stature. C'est-à-dire retrouver, c'est un côté gaullien là-dedans, c'est-à-dire retrouver quand même une France qui puisse porter sa voix. On l'a vu la semaine dernière avec les frappes en Syrie.
À propos de ces frappes aussi, Antoine Bonneau, la critique adressée au moment de ces frappes à Emmanuel Macron, c'est en gros, on suit les États-Unis. C'est la même chose. C'est-à-dire, Donald Trump décide, on suit. Alexis Poulain le disait, c'est-à-dire qu'il a dit, moi j'ai fait revenir Donald Trump dans le jeu syrien, tout de suite la Maison-Blanche a dit, non, nous on a notre agenda, il n'y a aucun souci. Est-ce qu'il n'y a pas aussi toujours ce sentiment, finalement ?
Alors, Éric Scholl parle de position gaullienne, je crois que de manière un petit peu plus triviale, on peut dire qu'il y a clairement une géopolitique de celui qui pisse le plus loin. Alors oui, c'est la critique qui est énoncée à l'égard d'Emmanuel Macron, mais elle ne va pas très très loin, cette critique-là, parce qu'il est bien évident que la France conserve son libre arbitre, y compris pour les frappes en Syrie. On n'est pas objectivement des suiveurs sur ce dossier-là.
Ah oui, Éric Scholl.
Non, ce qui est intéressant, c'est que Emmanuel Macron va bientôt rencontrer aussi Poutine.
À Saint-Pétersbourg.
Au 25 mai. Et donc, on voit bien qu'il est... et là aussi, il veut essayer de faire de la diplomatie avec Vladimir Poutine. C'est un peu la limite de l'exercice. C'est-à-dire, jusqu'où il peut aller avec Donald Trump, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de sujets de différents avec les États-Unis. Et de la même façon, il y a encore plus de différents avec la Russie. Mais il veut être un peu ce médiateur. Oui. C'est ça ce que j'appelle cette stature un peu gaullienne d'Emmanuel Macron. Mais maintenant, il faut aussi les résultats.
Oui, Alexis Poulain, ça peut véritablement apporter quelque chose, cette visite aux États-Unis. Elle sera importante, elle dure 3 jours, etc. Est-ce que ça peut véritablement faire quelque chose aujourd'hui? Les États-Unis, on sait, ont une telle réflexion et une telle posture que finalement, c'est difficile de faire changer de cap.
Oui, c'est pas le but. Je pense qu'on peut pas demander à un pays de changer de cap. Enfin, c'est pas le but. C'est simplement de voir tester les forces en puissance par rapport à ce qui peut être. On l'a vu, les scandales de Facebook, le GDPR. Enfin, on va avoir beaucoup de sujets qui vont venir à partir de maintenant où faire la loi va devoir être une loi internationale parce que c'est l'économie de plateforme. Donc, il faut savoir aujourd'hui qui sont les grands gagnants, qui sont les rois de l'économie de plateforme, c'est les Américains. Donc, c'est important d'y aller. C'est important de voir qu'est-ce qui se prépare au Congrès par rapport à ce que l'Europe a à proposer. Et là, effectivement, cette visite peut être intéressante pour ce qui va se passer dans les coulisses.
Allez, l'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
La fin du rassemblement devant l'université Tolbiac à Paris. Près de 400 personnes manifestées depuis 18h dans le calme contre l'évacuation du site ce matin par les forces de l'ordre et contre la réforme du gouvernement. Les occupants de Notre-Dame-des-Landes acceptent de déposer des projets nominatifs pour disposer légalement des terrains comme le demandait le gouvernement. Et une sortie de crise se profile ce soir. Nouvelle rencontre lundi prochain avec la préfète des Pays de la Loire. La SNCF fait un geste pour ses clients touchés par la grève des cheminots. Les abonnés TGV Ligne Intercité seront remboursés si moins d'un train sur trois a circulé pour les trajets des jours de grève du 22 mars au 19 avril. Ces remboursements seront effectués sur les abonnements du mois de mai. La France réclame un accès complet et immédiat à Douma pour l'OIAC. Parole de Jean-Yves Le Drian. Le ministre des Affaires étrangères dénonce l'attitude de la Syrie et de son allié russe. Pour le ministre, elle vise à faire disparaître les preuves de cette attaque chimique dans la Ghouta orientale. Cela va faire une semaine que cet accès des enquêteurs est empêché. Et puis Nantes domine Rennes 1-0. Le premier match actuellement de la 34e journée de Ligue 1 à 21h. Les footballeurs de Dijon affronteront l'Olympique Lyonnais.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, encore une question internationale. On parlait tout à l'heure de l'Europe totalement absente, hein, finalement, qui va, parce que Emmanuel Macron va aller donc rencontrer Donald Trump cette semaine. En Suisse, ça sera Angela Merkel. Antoine Bonneau, vous avez peut-être suivi cette semaine, Emmanuel Macron a fait un discours au Parlement européen. On a l'impression que pour lui, ça semble, même si lui se dit toujours européen, on a l'impression que c'est un peu plus compliqué de faire avancer son projet désormais en Europe que par rapport à son élection il y a un an.
Ben, il faut bien se souvenir sur quoi il a été élu concernant l'Europe. C'est sur une libéralisation nationale et une Europe qui protège. Or, l'Europe qui protège, il a essayé de bonne foi de faire avancer les dossiers qui permettaient justement de la mettre en place et ça n'a pas fonctionné. Donc là, il y a effectivement une stratégie à revoir.
Oui, c'est ça. Oui. Alexis Poulain, quand, aujourd'hui, quand vous avez vu finalement la manière dont c'est passé, alors il a été applaudi en même temps. Mais est-ce que le lendemain, on l'a vu avec Angela Merkel, c'était un peu froid aussi?
C'était un peu froid, oui. On voit que ça patauge un peu sur l'eurozone et le fait de dire qu'il faut restructurer, on en parlera un peu plus tard, on verra ça en juin. Et on voit bien que les partenaires allemands ne sont pas du tout d'accord avec ce qui a été mis sur la table. Et ils l'avaient dit d'ailleurs d'emblée. Maintenant, il va falloir trouver effectivement un point d'accord sur la suite. Mais le temps des réformes, là, être maître des horloges à Bruxelles, c'est beaucoup plus compliqué.
Oui, parce que, comme a dit un député, il faut convaincre 28 pays, hein, c'est Eric Scholl.
Il est arrivé tambour battant, ça y est, je refais l'Europe, etc. Je pense qu'Emmanuel Macron a oublié une chose, c'est que pour faire l'Europe, il n'a pas les ordonnances au niveau de l'Europe.
C'est ça,
il peut
le faire
en France, il n'a pas ça. Il a oublié effectivement qu'il avait 27 autres partenaires. Et ben, il est en train de le découvrir, alors il y a un travail qui est fait important, mais ça, l'Europe, elle ne se réforme pas juste par la volonté d'un.
Oui, c'est ça. Alors, Étienne Gérard, la prochaine échéance électorale, c'est justement les élections européennes. Cette fois-ci, ça sera au niveau national. Est-ce que ce sera vraiment des élections européennes ou ça sera une sorte de mid-term, comme on peut voir aux États-Unis, c'est-à-dire des élections de mi-mandat où les questions nationales vont davantage jouer que les questions européennes?
Alors, à mon sens, c'est toujours les deux. Oui. C'est-à-dire que, évidemment, il y a toute une partie de l'électorat qui va voter pour ou contre le président de la République, mais cet état de fait-là est toujours matiné quand même d'une position par rapport aux questions européennes, et notamment la question qui traverse tout, c'est la question de la souveraineté. Est-ce qu'on est pour revenir aux frontières? Est-ce qu'on est pour avoir notre monnaie? Est-ce qu'on est pour être maître de notre destin? Ou est-ce qu'on est pour aller plus loin dans le fédéralisme, plus loin dans l'amitié européenne et donc donner éventuellement certaines compétences supplémentaires à l'Europe. Ça tournera autour de ça, ce débat. Et il y a un autre paradoxe, c'est que, vous l'avez rappelé, Emmanuel Macron va avoir beaucoup de mal à faire bouger les lignes en Europe et pourtant, il semble sur la scène nationale être le mieux placé aujourd'hui pour gagner ces élections européennes-là.
Et d'ailleurs, ça pose un petit souci parce que s'il y a des députés en marche, où vont-ils se placer au Parlement européen? On ne sait pas parce que c'est ni de droite ni de gauche. Et en même temps, il faut, je crois, vous allez me dire ici pour là, il faut des députés d'autres pays également. C'est ça pour former un groupe. Hein.
Alors, Guy Verhofstadt se met en marche. On a vu la Halde. Enfin, clairement, il y a Pierre-Alexandre Anglade aussi qui est un député en marche qui fait un peu un tour d'Europe des partis pour voir ce qui se passe. Évidemment, et tous les partis sont à la manœuvre. La France Insoumise s'est mis avec Podemos le week-end dernier et Bloco. LR, bon, le PPE, donc ils ont besoin de rien, ils sont bien, c'est le groupe majoritaire depuis des années. Au Parlement européen, ils ont besoin de bouger. Mais la difficulté pour En Marche, effectivement, ce sera d'arriver à séduire des groupes en disant, alors si on veut mettre l'Europe en marche, ils arrivent quand même en étant un petit parti qui n'a pas autant d'existence sur le Parlement européen que les autres.
Antoine Bonneau. Entre nous, où se placer dans l'hémicycle, ça sera un problème de riche. Hein, parce que bah, pour l'instant, il faut juste maximiser le nombre de députés en Marseille.
Une seule chose, Eric Scholl, il y a The Guardian. Alors, je crois que Guardian, c'est un journal plutôt social-libéral, en fait, britannique.
C'est ça. Libéral de gauche, j'allais dire.
Voilà. Et aujourd'hui, là, ils ont publié un article pour dire il faut se méfier d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas celui qu'on croit. C'est un ultra-libéral. Pour eux, c'est-à-dire que c'est un journal britannique, même de gauche, qui le dit. Ça veut dire que est-ce que cette lune de miel avec les Britanniques, comme on a pu le voir pendant l'élection et après, elle est...
Non, mais de manière d'ailleurs plus générale, nous, cette semaine, on fait un dossier d'ailleurs sur le premier bilan d'Emmanuel Macron vu par la presse étrangère. Il y a eu un emballement qui avait commencé bien pendant toute la campagne électorale et qui a duré très longtemps, peut-être même plus longtemps qu'en France. Voilà, les faits maintenant commencent un peu à redescendre, notamment sur la découverte du style de la gouvernance d'Emmanuel Macron, où on s'aperçoit qu'il y a une gouvernance qui est, voilà, que la presse étrangère, en tout cas, juge critiquable.
Très bien. Allez, les informés de France Info, ça doit se terminer. Merci beaucoup Antoine Bonneau d'être passé ce soir. Merci Alexis Poulain. La une de Marianne.
Oui, la France des extrêmes et une interview exclusive de François Hollande.
Ah, c'est incroyable. François Hollande, il est là. Éric Schoen, la une de quoi
international. Eh bien, ce que je disais, Macron, l'agitateur, donc vu par la presse étrangère.
Très bien. Il est temps pour nous de retrouver Jean-François Akili. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Pour Tout est politique au programme ce soir.
Il y aura un beau sujet sur la loi asile-immigration avec Jean-Michel Clément, le député de La République En Marche de la Vienne, hostile au texte, également invité Othmane Nasrou des Républicains, Karim Bouamran du Parti Socialiste et David Guiraud de la France Insoumise.
Très bien, Tout est politique, c'est dans quelques minutes sur France Info.